Pour l'emporter, une langue doit séduire. Elle ne résulte pas d'un décret, mais d'un attrait. Alors, c'est parti pour une grande opération de séduction.
Pascal Paradou.
La phrase précédemment citée, l'attraction d'une langue ne résulte pas d'un décret mais d'un attrait, n'est pas la citation d'un homme politique, d'un linguiste éminent ou d'un écrivain de haut vol, mais c'est le constat du journaliste Frédéric Penel dans son livre La guerre des langues. Bonjour Frédéric Penel.
Bonjour.
Ni politique ni linguiste, pire, vous êtes un francophone de fraîche date, du moins c'est ce que vous écrivez dans ce livre, et j'ai envie de dire comme tout bon français, comment vous êtes tombé en francophonie ?
Alors, comme nombre de mes compatriotes français, effectivement, je me suis longtemps, et toujours senti français, européen, citoyen du monde.
Temps, un peu seul au monde.
En fait, j'ai été converti à, justement, j'ai compris mon appartenance à la sphère francophone assez récemment. Et c'est cette étude, en fait, il y a quelques années, qui annonçait que le nombre de francophones dans le monde au XXIe siècle allait exploser, qui m'a d'abord surpris. Et ensuite, j'ai voulu en savoir davantage et j'ai commencé à creuser, à enquêter pour savoir comment le français allait progresser, alors que j'ai grandi avec l'idée que le français était une grande langue par le passé. Qui a eu ses périodes de splendeur dans le passé, mais voilà, que c'est révolu.
Donc en fait, le fait de passer de un peu moins de 300 millions de francophones à peut-être 700, voire 800 pour les plus optimistes, c'est ça qui vous a fait dire « il faut que je m'intéresse à cette langue qui est partagée ».
Alors, oui, en fait, c'est-à-dire que ça a éveillé ma curiosité.
Presque un militant maintenant. Vous proposez, vous dites dans le livre que les Français doivent faire leur coming out linguistique.
Oui, tout à fait.
Ce coming out.
Oui, tout à fait. En fait, quand on voyage justement dans les pays francophones, on se rend compte d'une réalité, c'est que les gens se sentent, notamment, pas que, mais notamment francophones. Ils appartiennent à une famille francophone. Et les Français, eux, n'en ont pas forcément conscience. Bien sûr, ils parlent français, ils le savent. Souvent, ils chérissent leur langue. On sait quel débat parcourt la société française sur l'orthographe, sur la question du genre. Est-ce qu'il faut transformer les règles de français, etc. Ça déchaîne les passions en France. En revanche, il y a peu de sentiments d'appartenance à cette famille francophone. Il suffit de regarder la différence avec les Anglais. En sport, par exemple, les Jeux du Commonwealth en Grande-Bretagne attirent énormément de curiosité. Enfin, c'est un vrai événement là-bas. En France, les jeux de la francophonie passent presque inaperçus.
Donc vous pensez qu'il faut une prise de conscience collective? Vous citez l'historien Fernand Braudel, grand spécialiste de la Méditerranée, qui disait « la langue compte pour 80% dans l'identité française ». Donc ça accrédite ce que vous disiez sur l'importance que les Français accordent à leur langue sans forcément en prendre conscience. Ce livre est un appel guerrier?
Guerrier, je sais pas. En tout cas, c'est une prise de conscience. J'aimerais qu'effectivement un certain nombre, que les lecteurs du livre, après la lecture, puissent voir les choses un peu différemment, en prenant conscience, déjà que le français n'est pas parlé qu'en France, que les Français n'ont pas à discuter en huis clos des règles de leur langue, etc. Là, il y a des tas d'événements, il y a des tas de mouvements linguistiques qui ont émergé en francophonie avant d'arriver en France. Je pense par exemple à la féminisation. C'est pas les Français qui ont été les premiers, les pionniers de la féminisation.
Donc il faut regarder du côté du Québec.
Voilà, exactement.
Et vous proposez que l'Académie française soit installée à Dakar, à Kinshasa ou à Abidjan.
Eh bien oui, mais ça serait on ne peut plus logique quand on regarde justement le rapport de force numérique des francophones. Le français, c'est vrai, a forcément été à la base une langue européenne et il s'est échappé d'Europe. par la séduction, par la force, et il s'est répandu dans certains points du globe, notamment en Afrique. Et c'est vrai que avec ce déplacement du centre de gravité de la langue française de l'Europe vers l'Afrique, bah, ça ne serait pas illégitime de, bah oui, pourquoi pas, de délocaliser l'Académie française en Afrique.
Donc c'est pas simplement une joke. Pour parler français dans le texte, une plaisanterie.
Il y a un petit peu de provocation.
Il y a un petit peu quand même, un petit peu de provocation. Alors, pour ce livre, vous avez repris le titre d'un essai de Jean-Louis Calvet paru il y a 20 ans, La guerre des langues, mais vous rajoutez, le français n'a pas dit son dernier mot. Mm-hmm. Donc ça veut dire que la guerre n'est peut-être pas tout à fait finie.
Alors, la guerre des langues, c'est un phénomène qui existe depuis très longtemps. Il y a actuellement 6000 langues. La Terre est une tour de Babel, hein. Et il y a un phénomène qu'on pourrait rapprocher presque du darwinisme dans la nature, à savoir des langues dominantes et des langues dominées, et avec des victimes. Il y a une vingtaine de langues qui disparaissent chaque année. Donc, la guerre de langues, c'est un état de fait. Il y a, voilà, donc des langues qui disparaissent, d'autres langues qui tout d'un coup prennent un ascendant sur toutes les autres, et surtout, voilà, maintenant en période de mondialisation, cet ascendant est mondial. Et donc le français aujourd'hui est l'une de ces langues internationales. Donc qui n'a plus le même statut qu'auparavant, mais c'est une langue encore éminente et voilà, on va voir, rien n'est écrit devant.
Rien n'est écrit et il n'a pas dit son dernier mot. Alors des mots aux actes, comme tous les lundis, nous allons voir dans une ville du monde comment se porte le français ou la vitalité de la culture francophone, c'est ailleurs. Et ça se passe à Tunis avec l'ouverture de l'UFTAM, l'université franco-tunisienne pour l'Afrique et la Méditerranée. Bonjour Sophie Renaud.
Bonjour Pascal.
Vous êtes conseillère culturelle et directrice de l'Institut français de Tunis. Et voilà donc un bel exemple de coopération qui s'est mis en place en moins de 2 ans. Quel est l'objectif de cette université ?
L'objectif, c'est assez simplement d'offrir à des étudiants tunisiens, africains, méditerranéens, mais aussi, pourquoi pas, des étudiants français, des diplômes qui répondent d'abord aux besoins en termes d'emploi des entreprises qui travaillent dans cette région.
4 masters sont proposés ?
Alors, 4 masters, on démarre tout de suite avec 3. Le 4e va arriver en cours d'année. Et puis, surtout, en parallèle de ces 3 masters, vont démarrer également des certifications, puisque pour répondre à l'employabilité, il y a évidemment les diplômes classiques, si je puis dire. Et puis, il y a toute la question de la certification, des formations d'alternance qui va se développer dans les années à venir à l'UFTAM.
Alors, des masters plutôt techniques, scientifiques, numériques, il est question d'environnement, d'expertise en projet de développement. Il ne s'agit pas de former la littérature française.
Non, absolument. Donc c'est un projet qui démarre dans sa phase pilote cette année, puisque la grande inauguration de l'UFTAM aura lieu au moment du sommet de la francophonie. Et c'est à cette occasion que l'inauguration officielle sera faite. Donc c'est le lancement qui vient d'avoir lieu. Et dans cette phase de lancement, on démarre de manière un peu pilote, effectivement, avec des petites formations, des petits effectifs, pour un peu tester la question du fonctionnement aussi que l'on souhaite mettre en œuvre entre l'université et l'entreprise.
Combien d'étudiants concernés ?
On ouvre avec 3 masters de 15 étudiants. Et puis une série de certifications qui ouvrira à compter de janvier avec une 50aine d'étudiants. Et l'objectif, c'est dès 2020 de pouvoir atteindre 600 étudiants, avec notamment un enjeu important qui est la création d'un master des métiers d'enseignement. Vous savez qu'on manque cruellement sur le continent africain de profs. Et l'UFTAM va contribuer justement à répondre à ce besoin d'enseignants pour le continent africain.
Et l'enseignement se fait bien sûr en français, Sophie Renaud.
Absolument, en français. Oui.
C'est pour gagner la guerre des langues ?
C'est pas pour gagner la guerre des langues, c'est un projet qui est au cœur de la coopération franco-tunisienne. Par ailleurs, il a vocation à répondre à des besoins du continent africain, de l'Afrique subsaharienne, notamment toute cette partie de l'Afrique francophone. Et finalement, le français, c'est quand même, encore une fois, cette langue qu'on a en partage et qu'on a tous envie de défendre. Donc cette université, naturellement, sur un français. Et l'université vient d'ouvrir sur un campus qui est un campus qui accueille également la Tunisian Business School. Donc on va mettre les étudiants aussi dans ce contexte d'internationalisation en les confrontant à d'autres étudiants qui font un parcours en anglais.
Merci Sophie Renaud et on mettra donc l'adresse de l'UFTAM, uftam.org, sur le site de l'émission. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Ringer sur RFI avec l'un des titres phares d'Erita Mitsuko, intégrale et tournée exceptionnelle pour les 40 ans du groupe malgré la disparition de Fred Chichin. Catherine Ringer et Frédéric Penel, aujourd'hui notre invité dans De Vive Voix pour son essai « Guerre des langues, le français n'a pas dit son dernier mot » où il essaye, vous essayez de créer du désir pour cette langue en partage. Et vous nous racontez par exemple comment, malgré les idées reçues, le français est plus simple à apprendre que l'anglais parce qu'il y a moins de phonèmes en français qu'en anglais, alors que bon, on m'a toujours expliqué que c'est très compliqué d'apprendre le français.
Alors, je ne sais pas si qu'est-ce qui est le plus simple entre le français et l'anglais, mais c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, le français est une langue compliquée, alors que l'anglais serait une langue simple. C'est le linguiste Claude Agech qui démonte un petit peu cette idée. En expliquant que la langue anglaise, c'est une langue aussi qui est très compliquée, notamment en termes de sonorité. Il explique même que la dyslexie touche davantage les anglophones de naissance que, par exemple, les francophones, notamment pour la sonorité, pour une multitude de raisons. Et donc, nous, on a le sentiment que c'est plus simple parce que la langue la plus communément parlée, c'est pas l'anglais, c'est pas la belle langue anglaise, c'est le globish.
Oui, c'est 600 mots à peine.
Voilà, c'est très peu de mots, c'est une langue assez pauvre, dénuée de nuances, mais très pratique quand on voyage partout dans le monde, parce que c'est vrai que c'est un moyen de se déplacer, de communiquer avec quelques mots, de faire des affaires de manière assez simple. Mais dès qu'on arrive à l'anglais, la langue anglaise, effectivement, c'est une autre paire de manches.
Lire Shakespeare dans le texte n'est pas donné à tout le monde. Alors, vous faites linguiste, vous faites aussi historien dans ce livre, Frédéric Penel, en rappelant que le français a triomphé en maître avant le XIVe siècle, et puis au XVIIe, XVIIIe siècle. plusieurs raisons qui vont de la diplomatie à la démographie. Vous nous rappelez que, par exemple, la France était, au XIVe siècle, 3 fois plus peuplée que l'Allemagne, d'où l'importance du français, par exemple.
Oui, c'est vrai que quand le français, la langue française a eu tendance à déborder de ses frontières, si je puis dire, et très rapidement. On a l'image du français au XVIIIe siècle, voilà, une langue qui était parlée par les élites européennes. C'est vrai, mais le français avait commencé sa carrière internationale, si je puis dire, dès le Moyen Âge. Dès le XIe siècle, Guillaume le Conquérant qui envahit l'Angleterre pendant plus de 3 siècles. Toutes les élites du royaume d'Angleterre parlaient français, ce qui a eu des conséquences considérables d'ailleurs sur l'anglais d'aujourd'hui. Les Vikings donc francophones, si je puis dire, ceux qui sont aussi partis en Sicile, dans le sud de l'Italie, les croisades en Espagne, la Reconquista vers la Terre Sainte. Enfin, c'est vrai que ils ont été assez bouillonnants les Francs à cette époque et ils ont répandu donc par la force leur langue, mais c'est pas uniquement par la force, c'est aussi parce que assez rapidement le français a développé une littérature, c'était les légendes, les chevaliers à table ronde, Arthur, donc assez rapidement la littérature française, que ce soit Doy ou Doc, s'est répandue, a été prestigieuse. Saint-Louis était un roi très prestigieux dans tout l'Occident chrétien, et en Allemagne par exemple, à l'époque de Saint-Louis, il était de bon ton parmi les élites, les barons, que d'avoir un francophone, une francophone, pour élever les enfants.
Et quand on ne parlait pas français, donc entre le XIVe et le XVIIe siècle, on parlait italien, latin ou castillan, pas du tout l'anglais. En fait, la puissance de l'anglais, ou de l'américain, d'ailleurs il faudrait peut-être faire un distinguo, est très récente.
Oui,
c'est le début du XXe siècle.
Alors en fait, c'est quand on regarde l'histoire européenne, c'est vrai que les langues se sont succédées les unes après les autres. Effectivement, le français, donc pendant la période romane, gothique, puis l'italien qui était irrésistible, qui faisait enrager donc les poètes de la Pléiade, l'espagnol qui est parti dans une carrière internationale avec le castillan dans le cadre de la conquête du monde au siècle d'or. Puis après le français. Et c'est vrai que vers la fin du 19e siècle, il arrive un phénomène assez intéressant. Le français était encore une langue très importante, mais il y avait la montée en puissance de l'anglais. Il faut relire Proust pour se rendre compte que, par exemple, parmi les élites françaises, on utilisait énormément déjà d'anglicismes. Il n'y a absolument rien de récent. Et d'ailleurs, la plupart de ces anglicismes sont aujourd'hui complètement désuets. Et donc, on a eu une période où le français et l'anglais étaient un peu au coude à coude. Au niveau mondial, et on peut parler un peu d'une sorte d'interrègne linguistique, et donc on est autour de 1900, et c'est la période pendant laquelle on a développé des langues artificielles, enfin construites, créées dans des cabinets par des linguistes, et notamment l'espéranto est issu de cette vocation, à savoir essayer de créer une langue qui puisse permettre de communiquer dans le monde entier et qui soit pas connoté, pas lié à un pays, une langue anationale.
Mais ça, donc, c'est pas possible, parce qu'une langue anationale, sans culture, sans territoire, personne ne parle, ou très peu de gens parlent l'espéranto, alors que beaucoup de gens parlent l'anglais, notamment grâce au cinéma. Et vous racontez dans votre livre, Frédéric Penel, cette anecdote du producteur, du chanteur de jazz, qui est donc le premier film parlant en 1927, qui dit « Si cela marche, le monde entier parlera anglais ». Donc l'anglais, les Américains ont bien compris que la séduction est un élément clé de le divertissement même est un élément clé de la diffusion de la langue.
Tout à fait. On est là dans les années 20 avec le chanteur de jazz, et effectivement, la Warner Bros. Se dit, mais c'est incroyable, tout le monde va parler anglais, parce qu'à l'époque c'était absolument pas le cas. L'anglais était encore avec le français, c'était les deux langues diplomatiques. Hein. Et c'est à partir de la Seconde Guerre mondiale, enfin à la fin de la Seconde Guerre mondiale, que l'anglais ça s'est répandu de manière magnétique et à travers, là vous parliez de séduction, à travers la séduction, c'est pas par les armées que l'anglais s'est répandu, c'est vraiment Coca-Cola, c'est Levi's, c'est Madonna, c'est Columbo, c'est Disney,
c'est le popcorn, les cigarettes, voilà, etc.
C'est un mode de vie, tout à fait.
Du rôle du cinéma dans la promotion d'une langue, vous citez une série diffusée au Congo-Kinshasa, River Hotel, qui est une série francophone, même si le titre ne le signale pas forcément.
Jeff.
Vous voulez me voir, capitaine ?
Ouais. Je voulais vous parler de notre dernière discussion.
Par rapport à l'intervention au River Hotel ?
En fait, vous aviez raison. Je suis pas fan de vos méthodes, mais il y a des résultats.
Merci.
Jeff, vous êtes un bon flic, mais paranoïaque.
Non, je fais juste certaines choses différemment.
Et que voyez-vous ?
Je vois des têtes à faire tomber. Et un peuple qui souffle du système pénal. Voilà ce que je vois.
River Hotel, série congolaise, donc diffusée en 2018, qui fait un tabac. Est-ce que cela veut dire, Frédéric Penel, que les Congolais ont appris des Américains, justement, l'importance de ce que l'on appelle, encore une fois, c'est un anglicisme, le soft power ?
Les Congolais, en fait, suivent peut-être l'exemple des Indiens, avec Bollywood. On pourrait appeler justement c'est les séries congolaises Hollywood, donc avec un divertissement donc congolais africain. Et en tout cas, ces séries sont d'une qualité ascendante. Et il serait temps que justement que les francophones puissent aussi les francophones d'Europe puissent aussi en profiter,
les regarder. Oui. À quelles conditions l'Afrique peut-elle être l'avenir de la langue française ? Parce que c'est assez intéressant ce que vous racontez sur la période de la colonisation. En fait, pendant la colonisation, le français n'est que très superficiellement installé. Ce sont les élites qui parlent français. Aujourd'hui, peut-être plus massivement que dans les années de colonisation, on parle français. En Afrique.
Oui, c'est très intéressant, effectivement. Au moment de la décolonisation, finalement, le français était peu parlé dans les anciennes colonies. C'est par la suite qui va se développer. Ce sont les États nouvellement indépendants qui vont développer le français. C'est vrai que dans la plupart des États africains, il y a beaucoup de langues. Comment ne pas léser certaines langues en favoriser d'autres. La langue trait d'union, en fait, est restée le français. Et dans la scolarisation, dans l'administration, on a érigé le français en langue officielle, mais tout en gardant, tout en respectant les langues locales. En les respectant, par exemple, au Congo, donc à l'époque du Zaïre, on a réafricanisé, par exemple, les noms de villes. Donc c'est un savant mélange entre la nécessité d'avoir une langue commune et préserver absolument le patrimoine africain.
Mais si on veut regarder de près ce qui se passe et vous le signalez dans votre livre, hein, encore une fois, il y a aussi danger. Alors le terme est peut-être pas très bien employé, mais il y a un point de vigilance à faire pour ceux qui veulent la promotion du français. Mmh. C'est aussi du côté des langues africaines, parce que le Swahili est une des langues les plus enseignées au monde. Le Wolof aussi s'installe de plus en plus. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas une double tenaille pour les francophones ou pour le français ? C'est-à-dire, d'un côté, l'américain, l'anglais, et puis de l'autre côté, les langues africaines.
Oui, effectivement. Le français, aujourd'hui, est une langue africaine aussi, notamment. C'est une langue africaine, par exemple... Les phénomènes de créolisation le démontrent. Quand on va en Côte d'Ivoire, on se rend compte que le français, donc qui est appelé Nouchi, emprunte justement aux langues locales. En fait, c'est un français, c'est pas un français d'Europe. Il y a eu un vrai phénomène d'appropriation. Et aujourd'hui, c'est ça en fait l'avenir du français. Ça n'est pas le français pur, le français de Paris. C'est un français décentré, un français enrichi par par les différentes langues qui composent son écosystème, en fait. Et voilà, c'est vraiment l'avenir qu'on peut donner aux Français.
Alors en tout cas, ce qui est souhaitable, c'est que la France ne délaisse pas trop l'Afrique sur ces questions, notamment linguistiques, mais aussi sur ces questions d'éducation, parce que l'avenir du français est lié au système éducatif africain. Promesse de président, Emmanuel Macron a fait plusieurs discours sur ces questions-là à l'Académie française en mars 2018, puis à Yerevan pour le sommet de la francophonie, c'était presque jour pour jour il y a un an.
La francophonie est en quelque sorte ce lieu ouvert où nous pouvons réinventer le combat pour les biens communs universels et la réinvention du multilatéralisme. Parce que le français est devenu une langue monde, nous sommes donc le lieu d'une réinvention contemporaine d'un humanisme repensant des équilibres nouveaux.
Emmanuel Macron, dans le texte, c'était à Yerevan il y a un an au sommet de la francophonie. Frédéric Pennel, que pensez-vous du tournant macronien en matière de francophonie? Il y a un volontarisme évident, des moyens qui sont un peu plus à la traîne.
Oui, c'est vrai qu'au début, quand Emmanuel Macron est arrivé à l'Élysée, il y a déjà une mesure qui était assez étonnante, c'est qu'aucun portefeuille n'a été attribué à la francophonie comme il était coutume de le faire par le passé. Et puis quelques mois plus tard, on s'est rendu compte que de son vif intérêt en fait pour la thématique de la francophonie, il en a fait la promotion, il a même en Chine, il a appelé les Chinois à aider les francophones à faire du français la première langue du monde. Donc, il s'est montré volontariste par les mots, en expliquant bien aussi que le français n'est plus une langue de France, c'est vraiment une langue monde.
Mais les budgets.
Et puis les budgets, c'est là que c'est plus compliqué. Alors dans le plan d'action, on trouve effectivement la volonté d'aider l'enseignement des pays francophones en Afrique, ce qui est vraiment la priorité absolue, mais aussi d'augmenter le nombre d'étudiants étrangers en France, d'augmenter le nombre d'élèves dans les ce qu'on appelle donc les lycées français. Et après donc avec des budgets qui sont peut-être pas à la hauteur en termes de d'ambition.
On part quand même de très très loin. Hein. Les Britanniques ont par exemple un budget double que celui de la France en matière de politique linguistique. Donc forcément, on peut pas s'étonner que le français soit parfois un petit peu à la traîne.
Oui, parce que les Britanniques ont eux pleinement conscience, on l'a dit, de leur appartenance à une ère anglophone. Et effectivement, ils consacrent davantage d'argent à l'aide publique au développement, mais ensuite ils ont tendance à concentrer cette aide aux pays anglophones comme on aiderait davantage les membres de sa famille. Donc c'est vraiment ce sentiment d'appartenance familiale. Et c'est vrai que les Français, eux, donc ont diminué les montants de l'aide publique au développement. Très récemment, ils annoncent donc une remontée. Bon, on va voir comment ça va se dessiner dans les années à venir.
Mais pour l'instant, on est à peu près à 35% de l'aide au développement qui va vers les pays francophones d'Afrique, ce qui laisse quand même quasiment 65% pour d'autres pays non francophones. Donc il y a comme une presque aberration si on veut défendre le français au quotidien.
Oui, c'est d'autant plus étonnant que même d'un point de vue objectif, l'Afrique francophone est une région pauvre et qui a plus besoin que n'importe quelle autre région de notre soutien. Au-delà même des liens historiques, affectifs qu'on peut avoir avec elle.
En un mot, Frédéric Pennel, optimiste ou moyennement optimiste pour le français dans l'avenir?
Je suis plutôt optimiste, mais l'important n'est pas en termes de chiffres, de nombre de locuteurs. L'important, c'est d'avoir conscience qu'on appartient à une famille linguistique.
Merci Frédéric Pennel. La guerre des langues, le français n'a pas dit son dernier mot, est publié aux éditions François Bourin. De vive voix, Pascal Paradou, Yelko, Véronique Durand, Guillaume Ploquin à la réalisation. À demain.